se mettre à l'écoute de ce qu'il veut nous dire. Vous voyez qu'il veut nous parler ce matin, vous croyez? Amen. Je vous invite juste à prier alors aussi pour disposer nos cœurs, nos oreilles, nos pensées, notre intelligence à écouter ce que Dieu veut nous dire. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi ce matin et nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous t'avons prié et nous voulons maintenant aussi écouter ce que tu veux nous transmettre à travers les Écritures que tu as inspirées par ton Saint-Esprit et qui, par ton Saint-Esprit, veulent aussi s'appliquer dans nos vies. Seigneur, nous te demandons d'être à l'écoute de ta parole, que tu nous aides à pouvoir la comprendre, mais aussi à pouvoir la mettre en pratique avec l'aide de ton Esprit. Viens m'aider aussi, Seigneur, à pouvoir la transmettre avec justesse et avec clarté. Je te demande cela au nom de Jésus. Amen. Voilà, les ados, ils ont bien compris, on est entré dans le mois d'avril, c'est le mois où on va parler de la question de l'enseignement dans la vie de l'Église. Depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin, on est dans un temps particulier pour notre Église où on veut se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, mais aussi à l'écoute peut-être de ce que Dieu veut nous montrer plus spécifiquement pour notre Église, la vision de Dieu, la mission de Dieu pour notre Église. On pense que Dieu nous fait entrer dans une nouvelle saison de notre vie d'Église qui a une longue histoire déjà. Et dans cette nouvelle saison, on veut vraiment discerner ensemble la vision de Dieu. Hier, on avait eu donc une journée un peu spéciale qu'on appelle les journées vision. Alors, pour ceux qui étaient là, on a parlé donc de la question de l'enseignement, notamment le matin, on avait Nathalie Perrault qui nous a parlé de l'enseignement des enfants dans la vie de l'Église, parce qu'on est tous impliqués, même si on n'est pas parents de jeunes enfants ou il y a pas de, même si on n'a pas d'enfants, ce sont les enfants que Dieu place au sein de notre communauté et on est tous responsables quelque part pour la génération suivante de transmettre la parole du Seigneur. Au mois de janvier, donc, on avait vu le thème de l'adoration. On a pris cet acronyme ACTES, A-C-T-E-S. Adoration en janvier, C pardon, pour communion fraternelle en février, T au mois de mars pour le témoignage, c'est-à-dire l'évangélisation, et E au mois de avril, on est en avril, pour l'enseignement. Et pour introduire ce thème, j'aimerais prendre un texte avec vous qui se trouve, qui est très connu, c'est les derniers versets de l'évangile de Matthieu. Dernier verset de l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, versets 16 à 20. On va le lire ensemble. C'est Jésus qui se présente à ses disciples après sa résurrection. Jésus est mort, il est ressuscité et il dit à ses disciples: rendez-vous en Galilée. Et le texte commence ainsi: les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent, mais ils ne surent que penser. Diapo suivante. Ah non, oui, c'est, pardon. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi: j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà un texte bien connu. Et vous pourriez vous dire, mais c'est pas un texte plutôt par rapport au thème du témoignage, de l'évangélisation, de la mission. C'est souvent dans ce cadre-là qu'on va lire ce texte ou qu'on va le citer. Pourtant, c'est bien un texte qui parle d'enseignement. Jésus dit, allez, enseignez-leur à garder, à mettre en pratique, à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et la première chose qu'il dit, c'est aussi, faites des disciples. Et vous savez, si vous regardez en grec, c'est juste un verbe, faire des disciples. Voilà, c'est un seul verbe, en français qui n'existe pas, on n'a pas d'équivalent. Mais si vous regardez dans un dictionnaire de grec, le sens de ce verbe, c'est instruire, enseigner, former des étudiants. C'est ça que ça veut dire faire des disciples. Et c'est pour ça qu'il dit, voilà, faites des disciples, enseignez-leur. Les dernières paroles de Jésus que l'évangile de Matthieu rapporte sont un encouragement à faire de l'Église, on pourrait dire, une école de disciples. L'Église, une école de disciples. Amen. Et ça n'a rien d'étonnant que Jésus dise cela, parce que, en fait, c'est le modèle que Jésus nous a laissé lorsqu'il était sur terre. Dans l'évangile de Matthieu, c'est très marqué, la première communauté chrétienne, l'Église embryonnaire, on pourrait dire, qui est présentée comme ça dans l'évangile de Matthieu, c'est Jésus et ses disciples. Maître Jésus, Rabbi Jésus, avec ses étudiants. La première église, c'est l'école de Maître Jésus. Vous savez, dans le contexte de Jésus, il n'y avait pas d'université, d'école supérieure comme on a aujourd'hui dans notre contexte, mais il y avait bien des formes d'écoles pour jeunes adultes. Et ces écoles fonctionnaient généralement d'une manière assez simple. Vous avez des étudiants qui venaient se laisser enseigner par un maître, un enseignant réputé. Et le mot grec qu'on traduit par « disciple » dans nos vies, c'est le mot habituel pour désigner les étudiants de ces écoles. Dans le monde grec ou romain, ceux qui connaissent un peu la philosophie, vous avez déjà entendu parler des écoles philosophiques, c'était le principe, vous aviez un grand philosophe, Aristote, Platon ou d'autres, et vous aviez ses disciples qui venaient discuter avec lui, écouter son enseignement, et ça formait une école. Il y avait une forme de vie commune aussi dans cette forme d'école, c'était pas juste on venait comme ça et on repartait. Dans le judaïsme, c'était aussi quelque chose qui commençait à se développer à l'époque du Nouveau Testament. On avait des spécialistes un peu de la loi, de l'interprétation des Écritures, et on venait étudier au pied de cet enseignant. Par exemple, en Actes 22, verset 3, l'apôtre Paul explique qu'il a été éduqué au pied de Gamaliel. Gamaliel qui était un célèbre maître de la loi de l'époque. Paul a donc été un étudiant de l'école biblique de Rabbi Gamaliel. Et le terme rabbi ou rav en hébreu signifie enseignant, maître. C'est comme ça qu'on désignait ces enseignants, ces maîtres. Et dans ce contexte, la façon de fonctionner de Jésus, c'est tout à fait celle d'une école supérieure pour jeunes adultes. Dans les évangiles, Jésus, il est souvent appelé maître. Enseignant, et c'est, nous on traduit maître, on pense que c'est le chef, non, c'est enseignant le terme qui est utilisé ici. On l'appelle aussi parfois rabbi, ce qui est une transcription parce que les évangiles ont été écrits en grec, mais Jésus s'exprimait, et ses disciples plutôt en araméen. Et ceux qui suivent Jésus sont appelés ses disciples, ses élèves. Vous remarquez, voilà, quand Jésus entre dans le temps de son ministère, après son baptême, après le passage dans le désert, une des premières choses que les évangiles nous rapportent, la première chose qu'il fait, c'est de choisir des disciples. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, verset 19, c'est le tout début du ministère de Jésus. Jésus va aller voir deux jeunes pêcheurs de poissons, des Simon-Pierre et son frère André, qui sont à la pêche, en train de travailler, c'est leur travail. Et il va leur dire, suivez-moi, et je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Autrement dit, venez dans mon école, je vais vous apprendre une autre forme de pêche. Et une pêche dont l'enjeu est bien plus crucial que la pêche aux poissons. Et puis, juste après, on a Matthieu 5, verset 1, qui introduit le sermon sur la montagne, qui occupe trois chapitres dans l'évangile de Matthieu, un magnifique enseignement de Jésus. Et le texte est introduit comme ça, Jésus monte sur une colline, le texte dit, Jésus s'assoit, les disciples viennent vers lui, puis il ouvre la bouche pour enseigner. Et c'est tout à fait comme ça que fonctionnaient les enseignants, les écoles, on va dire, de l'époque. Le maître était assis, les disciples à ses pieds, étaient assis à côté, et puis il enseignait. Le modèle que Jésus nous a laissé, c'est celui d'une école. J'appellerais le CCPJ, le cours chrétien par Jésus. Mais remarquez, le CCPJ, ce n'est pas un lieu où les étudiants venaient pour juste quelques heures de cours puis rentraient chez eux, comme on ferait dans une école aujourd'hui. Le CCPJ, d'ailleurs, ce n'est pas un lieu, c'est une communauté. L'école de Jésus, c'est une communauté, c'est une école à laquelle on appartient. Ce n'est pas une école où on vient, c'est une école à laquelle on appartient. Les disciples, Jésus, ils n'étaient pas disciples de 8h à 17h du lundi au vendredi, peut-être pas le mercredi après-midi, en dehors des vacances scolaires. Non, être disciple de Jésus, c'est une façon d'être, c'est un mode de vie qui implique toute notre vie. Les disciples Jésus sont des disciples, quand ils écoutent Jésus les enseigner, mais aussi lorsqu'ils partent prêcher, guérir les malades, mais aussi lorsqu'ils sont sur le bateau, ou lorsqu'ils mangent, lorsqu'ils dorment, lorsqu'ils sont en famille, quoi qu'ils fassent, ils sont des disciples. Et ça, c'est le modèle que Jésus nous a laissé. Première église, une école de disciples dirigée par Jésus. Et dans le texte que nous avons lu, nous voyons que le désir de Jésus, c'est que ce modèle se poursuive, même après qu'il soit monté au ciel. Et plus qu'un désir, c'est un ordre qu'il nous laisse. Faites de toutes les nations des disciples. Même après sa résurrection, qu'il soit monté au ciel, l'Église reste composée de disciples, c'est-à-dire d'étudiants. L'école de Jésus-Christ ne disparaît pas quand le Maître monte au ciel. Et dans le livre des Actes, on nous raconte justement la suite de l'histoire après l'ascension de Jésus. Et savez-vous comment les chrétiens sont désignés de façon générale dans le livre des Actes? Comment on appelait les chrétiens? Des disciples. Si vous lisez le livre des Actes, on nous dit les disciples étaient réunis. Ce n'est pas les 12 disciples, c'est tous les chrétiens qui sont appelés comme ça dans le livre des Actes. Amen. Voilà, on a des disciples. Vous êtes des disciples? Est-ce qu'on est conscient de ça, qu'on est tous des disciples à l'école de Jésus? Et que par conséquent, l'Église est une école de disciples? Il y a certaines personnes qui ont dit, qui ont même peut-être une vision en disant, ouais, notre Église, peut-être un jour, pourrait mettre en place une école biblique, ou accueillir peut-être dans nos locaux une école biblique. Rappelons-nous que déjà, en tant qu'Église, dans notre identité, selon la Bible, par définition, on est une école de disciples. Et on ne parle pas ici d'un lieu où on vient, comme l'Église. Hein. Rappelez-vous, l'Église, c'est un peuple, avant tout, auquel on appartient. Paul parle d'un corps. L'Église est comme un corps dont on est un membre, ou un temple dont nous sommes les pierres vivantes. Et quand on dit que l'Église est une école de disciples, c'est la même chose. Nous sommes des disciples à l'école du Christ à chaque seconde de notre vie. Quand nous sommes rassemblés pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu ensemble ou pour faire de l'étude biblique, mais aussi lorsque nous sortons de ce lieu, la formation continue. Quand nous sommes chez nous, en famille, au travail, sur notre lieu d'étude, paradoxalement, on est doublement à l'école hein, en tant que chrétien. Quand nous mangeons, quand nous dormons, quoi que nous faisions, nous restons des disciples du Christ. Ça fait partie de notre identité chrétienne. Alléluia. Alors, je ne sais pas si c'est très vendeur non plus de parler de l'Église comme une école. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous, vous ne gardez pas des très bons souvenirs du passage à l'école. Hein. On y est tous passés un jour ou l'autre, normalement, dans nos vies, même pas mal d'années. Je ne connais pas beaucoup d'enfants qui vont à l'école en sautant de joie. « Ouais, on va à l'école !» En tout cas, pas les miens. C'est plutôt quand ils reviennent de l'école ou que c'est le début des vacances... Que là, ils sautent de joie. Hein. Je sais pas voilà, si c'est aux enfants, c'est pareil. Alors, pour être honnête, moi aussi, j'étais comme eux, à leur époque, à leur âge en tout cas. J'étais pas spécialement passionné par les études au collège, au lycée, même au début de la, voilà, la fac. Hein. Et pourtant, j'ai fini par faire un doctorat, bon, des fois. Voilà. Et puis demain, je serai encore en classe, en salle de classe, mais moi, cette fois pour donner des cours à des étudiants qui... Un peu comme quand j'étais à leur place, honnêtement, sont plus ou moins attentifs, plus ou moins endormis. Hein. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours une bonne image de l'école, mais quelle que soit notre expérience de l'école, à travers cette image-là, qu'on est tous des étudiants à l'école du Seigneur, ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est qu'on est, voilà, on a des choses à apprendre. En nous appelant disciples, Jésus veut nous faire comprendre qu'on a encore beaucoup à apprendre. Parce que pour être un étudiant, un disciple, il faut être enseignable, être prêt à être enseigné parce que Dieu veut nous enseigner. Et ça, honnêtement, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas, hein ? Surtout en tant que Français, Vous savez, à l'étranger, hein, les Français n'ont pas toujours très bonne réputation, et notamment, une des choses qu'on leur reproche, c'est leur arrogance. Et je crois que ce n'est pas tout à fait volé, hein. On se croit un peu les plus intelligents, on pense avoir tout compris. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, je vais vous expliquer. Et parmi les Français, peut-être que les Parisiens sont encore probablement ceux qui ont le mieux tout compris, hein. Quand un Parisien va en vacances en province, il peut aller voir un éleveur de moutons qui, depuis 40 ans, élève des moutons de génération en génération, lui expliquer comment il devrait élever des moutons. Parce qu'à Paris, c'est bien connu, il y a plein de moutons. Et dans l'église, c'est pas toujours mieux, hein. Tout le monde a son idée sur tout, parfois, hein. Moi, je sais comment ça devrait être. On est les sachants, et les autres n'ont pas toujours bien compris. Mais ce n'est pas le modèle que Jésus nous laisse ici. Et on voit bien, même dans les évangiles, hein, les disciples, ils se disputent, et notamment, ils veulent savoir qui est le plus grand. Je sais pas si vous vous rappelez de ce passage. Et qu'est-ce que fait Jésus quand ils disent, dis-nous, c'est qui le plus grand? Il appelle un petit enfant et il le met au milieu d'eux. Il leur dit, voilà le plus grand. Un enfant, c'est celui qui a beaucoup à apprendre, hein. Et notre Seigneur nous invite à l'humilité, à devenir comme des petits enfants, à reconnaître que face à Dieu, un Dieu à la connaissance infinie, je ne sais rien. Donc j'ai tout à apprendre. Mais est-ce que je suis prêt à devenir comme un enfant qui a encore beaucoup à apprendre? Est-ce que je suis prêt à entrer dans l'appel qui est le nôtre en tant que chrétien, celui de disciple à l'école du Christ? Et c'est un enjeu fondamental. Vous savez, dans les évangiles, là aussi, on nous raconte qu'il y avait des maîtres de la loi, des enseignants par excellence, des érudits qui sont passés à côté de ce que le Seigneur et leur Sauveur Jésus-Christ voulaient leur révéler, voulaient leur faire comprendre. Ils sont passés à côté de Jésus, leur Messie, leur Sauveur. Et pourquoi? Parce que le texte parle notamment qu'ils avaient le cœur endurci, l'intelligence endurcie. Ils n'étaient pas prêts à se laisser enseigner par Jésus. Et si notre cœur est fermé, qu'on pense ne rien avoir à apprendre, on ne peut pas être un élève à l'école du Christ. On ne peut pas être son disciple. Et si on ne peut pas être un disciple, quelque part, on ne peut pas être sauvé. Si nous ne devenons pas comme un petit enfant, dit Jésus, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Accepter d'être tel un enfant qui a tout à apprendre, c'est une question fondamentale pour la foi chrétienne. Mais si nous sommes prêts à ouvrir nos cœurs, à nos pensées, à notre Seigneur Jésus, à notre enseignant Jésus, à Rabbi Jésus, alors je vous dis, bienvenue à l'école de Jésus-Christ, hein. Bienvenue au CCPJ, hein, le cours chrétien par Jésus. Et le premier point, je crois le plus important de tout, quand on veut comprendre ce qu'est cette école que Jésus nous appelle à être en tant qu'Église, hein. Bien sûr, c'est une image, on ne va pas mettre des bancs, etc. Voilà, c'est une école particulière. Mais le premier point qu'il nous faut retenir, c'est qu'il s'agit de l'école de Jésus-Christ. Et ça se voit bien dans le texte que j'ai lu tout à l'heure. Premièrement, Jésus est le directeur de l'école. Jésus est le directeur de l'école. Et c'est la première chose qu'il rappelle. Qu'est-ce qu'il dit quand il se montre à ses disciples en premier? J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Toute autorité m'a été donnée sur le ciel et sur la terre. Jésus est le chef de l'Église qui a reçu cette autorité de Dieu, le Père. Il est le directeur de l'école, autrement dit. Et c'est lui-même qui vient recruter les étudiants. Rappelez-vous, hein, il vient trouver Pierre et André, il leur dit, suivez-moi. Ils n'ont rien demandé, hein. Il leur dit, viens, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est lui qui vient te dire, bon, c'est bien les études de pêche, hein, mais j'ai une formation encore mieux pour toi. Une formation qui va affecter absolument tous les domaines de ta vie. Une formation qui va te permettre de vivre la vie pour laquelle Dieu t'a créé. C'est ça l'objectif. Une formation qui va te faire comprendre le sens de ta vie. Une formation qui a des conséquences non seulement pour quelques années, mais pour l'éternité. Jésus a reçu toute autorité, il est le directeur du CCPJ, et c'est lui qui vient nous appeler à son école. Deuxièmement, ce n'est pas seulement le directeur Jésus, mais c'est même celui qui a payé lui-même les frais d'inscription. Il a même passé l'examen d'entrée à notre place. Et heureusement, parce que personne n'est assez bon pour entrer dans l'école d'un Dieu infini, éternel, parfait, trois fois saint. Et si nous devions passer l'examen d'entrée, nous échouerions tous lamentablement. Hein, parce qu'on est incapable de tenir notre langue, incapable de garder nos yeux pour ne pas regarder l'autre de travers, incapable de comprendre qui est vraiment Dieu par nous-mêmes. Mais Jésus a passé lui-même l'examen d'entrée à notre place. Lui, il est le seul à jamais avoir jamais échoué, jamais péché. Il n'a jamais échoué à faire la volonté de Dieu, parce qu'il est aussi Dieu. Il a volontairement choisi de souffrir à notre place. Il a payé lui-même le prix de notre entrée dans son école, hein, et il a payé très cher. C'est pas n'importe quelle école. Il a payé très cher jusqu'à sa propre vie donnée pour nous en mourant sur la croix. Jésus mort sur la croix dans d'atroces souffrances pour nous donner la vie véritable, la vie dans son royaume, la vie dans son école. Et c'est bien pour ça que la formation à l'école de Jésus commence par un acte bien particulier, ce que dit Jésus ici, la première chose faite de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, c'est l'acte qui marque officiellement notre entrée dans l'école de Jésus. Et ce n'est pas un examen d'entrée, le baptême. Alors, on fait des cours de préparation au baptême, mais il n'y a pas d'examen à la fin. Il n'y a pas de... Voilà, le baptême n'est pas un prix à payer. Il n'y a rien de très compliqué à se plonger dans l'eau, hein. En général, en tout cas si on est en santé correcte. Le baptême, c'est un acte avant tout symbolique, qui témoigne de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, de ce que lui a payé de sa vie, mes frais d'inscription, on pourrait dire. Parce que quand on est plongé dans l'eau du baptême, on se souvient que j'ai été mort avec Christ, enseveli avec Christ dans sa mort. Et lorsque je ressors de l'eau, je manifeste que je suis ressuscité avec Christ pour une vie nouvelle. Ça, c'est ce que dit le baptême chrétien. Ma vie n'est désormais plus la même. J'ai une vie nouvelle en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Je suis désormais un disciple du Christ. Parce que c'est lui, par sa mort et sa résurrection, qui me le donne. Le baptême, c'est aussi un engagement. Le baptiser, il y avait une prédication là-dessus, hein, qui est sur YouTube, si vous voulez revoir le sens du baptême, il y a quelques mois. Le baptême est un engagement où le baptisé s'engage aussi à suivre le Christ, à le servir, et à prendre sa place dans le corps du Christ qui est l'Église. Oui, Jésus commence par dire le baptême. Pourquoi ? Parce que c'est un acte initial fondamental pour toute vie de disciple. Ce n'est pas l'aboutissement de notre vie en Christ, hein. C'est le début. C'est, on pourrait dire, la cérémonie de rentrée dans l'école du Christ. Parce que Christ lui-même a payé pour nous les frais d'inscription. Il a passé l'examen à notre place. Et nous, on a juste à célébrer cela à travers le baptême, en le rendant grâce, avec tout notre corps. C'est le deuxième point. Troisième point, Jésus est celui qui fournit les manuels. Jésus, c'est l'enseignant par excellence, bien entendu. Et si Jésus n'est plus physiquement présent aujourd'hui dans son école, il nous a laissé le manuel du cours. C'est ce qu'il dit. Après avoir parlé du baptême, Jésus continue en disant « Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Autrement dit, Jésus dit à ses disciples, l'enseignement dans l'école de disciples, de l'école de Jésus, elle doit avoir pour centre l'enseignement de Jésus. Et c'est pour cela que les premiers disciples de Jésus, les apôtres, ont travaillé avec leurs collaborateurs, notamment à mettre par écrit l'enseignement de Jésus. C'est pour ça qu'on a les évangiles, c'est pour ça qu'on a aussi tout le Nouveau Testament qui nous rappelle le message de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça, c'est le fondement de notre enseignement dans la vie de l'Église. On trouve à travers la Bible, la parole de Dieu. C'est comme ça que ça nous a été transmis, ce que le Seigneur a prescrit, avant tout par les Écritures. Mais bah, quand on lit la Bible, il faut toujours se rappeler ce que rappelle Jésus, que toute la Bible doit être lue à la lumière de la vie, de l'œuvre, de l'enseignement de Jésus-Christ. Jésus, c'est le centre, la clé de lecture de toutes les Écritures, de toute la Bible. Et enfin, Jésus assure lui-même le suivi des étudiants. Parce que si Jésus a confié à ses disciples la transmission de son enseignement, il ne les a pas abandonnés pour autant. Il n'a pas dit, bon, salut, je m'en vais, je vais au ciel, débrouillez-vous maintenant, hein, sans moi. Non, qu'est-ce que dit Jésus? Les dernières paroles dans l'évangile de Matthieu, et voici, je suis moi-même avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et comment Jésus rend cela possible? Ça, on le lit dans le livre des Actes notamment et dans d'autres textes du Nouveau Testament, à travers son Saint-Esprit qu'il a déversé sur son peuple, sur son Église. C'est l'Esprit du Christ, la présence du Christ parmi nous, qui nous accompagne tout au long de la formation, tout au long de notre vie de disciples. Et sans la présence du Christ à travers le Saint-Esprit, on serait bien incapable d'avancer dans la formation. C'est, l'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit qui nous donne la pensée du Christ. C'est le Saint-Esprit qui vient illuminer notre intelligence pour nous aider à comprendre les Écritures, à comprendre la volonté de Dieu. C'est lui aussi qui vient transformer et former notre caractère pour qu'il soit toujours plus conforme à celui du Seigneur. Et c'est lui qui nous permet aussi de surmonter les examens, les épreuves, les tests qu'on a tout au long de la formation. Il y aurait encore beaucoup à dire, hein, sur l'Église comme école de disciples. Je dirai encore un ou deux points après, mais je pense que ce premier point est fondamental et central. C'est l'école de Jésus-Christ. Il en est le directeur. C'est lui qui a passé l'examen d'entrée à notre place. C'est lui l'enseignant par excellence. C'est lui qui assure même l'accompagnement au quotidien par son Saint-Esprit. Et dans la vie de l'Église, dans notre vie d'Église en tant qu'école de disciples, rappelons-nous cela, Christ est toujours et doit toujours rester le fondement et le centre de notre enseignement. Il ne peut pas y avoir d'autre fondement. Ça, c'est fondamental. Alors, je mentionnerai encore deux points peut-être sur le modèle que Jésus nous laisse pour la formation. Le premier point, c'est celui que j'ai présenté hier pour ceux qui étaient là hier après-midi dans notre journée vision. Je vais juste résumer en quelques phrases. C'est l'idée que la formation de Jésus est une formation complète qui implique à la fois le savoir, le faire et l'être. Le savoir, le faire et l'être. Le savoir, d'abord, c'est la formation qu'on pourrait dire biblique ou théologique. C'est savoir bah, qui est Dieu. On a besoin de comprendre qui est Dieu, qui est Jésus, comment être sauvé, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie de façon plus large, pour mes relations, dans plein de domaines. Dans l'évangile de Matthieu, on trouve plusieurs grands discours de Jésus, comme le sermon sur la montagne, où Jésus enseigne ses disciples, leur donne des fondements, leur explique comment comprendre les Écritures. Ça, c'est le modèle de Jésus. Et les disciples l'interrogent, posent des questions, échangent avec lui. On a besoin dans l'Église de progresser et d'avoir des temps de formation biblique. Théologique, c'est un grand mot, mais ça veut dire de comprendre qui est Dieu. Hein, la théologie, c'est ça. Et c'est ce qu'on essaye de faire durant les temps de prédication, les temps d'études bibliques. On a parfois d'autres formations. On a la préparation au baptême, qu'en général, pour ceux qui veulent se faire baptiser, ça commence la semaine prochaine, on a une nouvelle session. Mais ça serait possible aussi d'envisager d'autres temps d'enseignement. Et il y a, voilà, il y a plein de lieux possibles pour ça. Mais c'est un premier aspect, peut-être le plus évident, celui auquel on pense quand on parle d'enseignement en général. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi un deuxième aspect, c'est la formation, on pourrait dire, pratique, le faire. Parce que Jésus ne s'est pas contenté d'enseigner ses disciples par des discours. Il leur a aussi montré comment prêcher, comment agir auprès des malades, des perdus. Et puis, très rapidement, Jésus, il envoie ses disciples en stage pratique. Il leur dit, allez-y, maintenant à votre tour. Et si vous regardez dans les évangiles, c'est assez tôt, hein, il n'a pas encore fait une grande formation, Jésus, mais il les envoie, il dit, allez, deux par deux, annoncez la bonne nouvelle, priez pour les malades, etc. Ils ont dû aussi ramer hein, pour traverser le lac, c'est très concret. Ils ont parfois aussi dû distribuer la nourriture aux foules, hein, des milliers de personnes. Il faut Jésus a multiplié la nourriture, mais il faut encore leur distribuer la nourriture. Hein. C'est une organisation et c'est du boulot. Et puis voilà, ils sont partis aussi annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, délivrer les démoniaques. Il y a un côté pratique à la formation avec Jésus, hein. Ça reste juste pas juste de la théorie. D'ailleurs, Jésus, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, il dit « Enseignez-leur à obéir », littéralement à garder tout ce que je vous ai prescrit, mais garder, c'est un terme juif pour qui veut dire obéir, mettre en pratique. C'est pas juste apprendre par cœur l'enseignement de Jésus, hein, qu'on est appelé à faire. Ça sert à rien de connaître la Bible par cœur si elle a aucun impact sur nos vies. C'est mettre en pratique l'enseignement de Jésus. Et dans la vie de l'Église, c'est important d'avoir aussi ces lieux de formation très concrets, pratiques. Peut-être que ce soit pour le service dans l'Église, hein, comment faire l'accueil, comment faire le ménage, où sont les balais, etc. Hein. Comment présider le culte pour certains, enseigner les enfants, comment donner son témoignage. Et aussi des lieux de formation pour notre témoignage du quotidien, pour notre vie de disciple au quotidien, hein, comment être un bon mari, une bonne épouse, être des parents, des grands-parents selon la volonté de Dieu. Et, ouais, il y a pas plein de sujets possibles, mais qui sont très concrets, très pratiques. Et puis troisième aspect, c'est la formation du caractère, de l'être. Pour pouvoir obéir à ce que Jésus a prescrit, il ne suffit pas seulement d'un peu d'entraînement, hein. Vous savez, quand Jésus dit « aimez ses ennemis, aimez vos ennemis, pardonnez, faites-vous les serviteurs de tous, portez votre croix », ce n'est pas si simple, hein. Il ne suffit pas juste de le dire ou de le savoir. Et ça, pourquoi ce n'est pas si simple? Parce que ça implique que le Saint-Esprit vienne transformer notre caractère, notre personne, pour qu'il soit toujours davantage, toujours plus conforme au caractère et à la pensée du Christ. Et dans les évangiles, c'est surtout à travers la vie communautaire que Jésus va aider les disciples à progresser. La vie ensemble. Parce que c'est là que ça frotte en général un peu. Hein. Et lorsque les disciples se disputent pour savoir qui est le plus grand, on l'a vu tout à l'heure, Jésus va leur faire comprendre qu'il faut devenir comme un enfant. De la même manière, le Seigneur utilise la vie très concrète de nos relations dans la vie de l'Église. C'est pour ça que c'est important de prendre part aussi à et travailler aussi ces relations, avoir des lieux où on se rencontre, on ne vient pas juste de manière incognito. L'Église, c'est une vie communautaire. Parce que Dieu utilise cela pour aussi former notre caractère. Il nous encourage à nous confesser nos péchés les uns aux autres. Il y a des textes qui parlent de ça. Confessez-vous les péchés les uns aux autres. Encouragez-vous. Priez les uns pour les autres. Ça peut se faire généralement en petit groupe ou en façon personnelle. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais simplement retenir ces trois dimensions. La formation selon le modèle de Jésus, le savoir, formation biblique, théologique, les connaissances de qui est Dieu, etc. Le faire, la formation pratique, et l'être, notre caractère. Et puis dernier point, Je pense qu'il est important aussi de retenir et qui est aussi un élément clé du passage que j'ai lu au début, c'est que dans l'école de Jésus, on n'est pas seulement des élèves, on n'est pas seulement des étudiants. On est tous aussi impliqués dans l'enseignement. Jésus a dit à ses disciples, le texte dit comme ça, il dit à ses étudiants, faites des étudiants, faites de toutes les nations des disciples. Jésus dit à des disciples de faire des disciples. Hein. Les élèves du Christ doivent à leur tour enseigner ce qu'ils ont appris du Christ. Et dans la vie de l'Église, eh ben, on est tous partie prenante de la formation. Pas seulement en tant qu'étudiant, en tant que disciple, mais aussi en tant que, d'une certaine manière, enseignant. Alors, il y a des dons différents dans la vie de l'Église. Certains ont un appel plus spécifique dans l'enseignement, notamment biblique ou théologique. D'autres, peut-être, sont plus doués pour transmettre une formation pratique. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher ou à être un pasteur enseignant, on va dire, c'est un des rôles importants du ministère pastoral. Mais on est tous appelés à être des disciples qui font des disciples. Alors on peut réfléchir comment ça peut se manifester dans les trois axes que j'ai pris tout à l'heure. Formation biblique, théologique, eh ben, on n'est peut-être pas tous des spécialistes des Écritures, mais on peut tous partager autour de la Bible avec nos frères et sœurs de manière... Ouais, non, il y a des occasions de réunion, mais ça peut être de manière informelle aussi. Ah, mais comment tu comprends ça? Et puis, ah, moi, ça me parle. Et échanger sur ce que nous avons lu, partager des ressources parfois aussi qu'on trouve qui peuvent être utiles pour progresser. Des livres, parfois des vidéos sur YouTube ou des enseignements. On est tous impliqués. Au niveau de la formation pratique, si on a des compétences dans un domaine, voilà, moi je suis plutôt, on est engagé dans un service ou même dans le domaine en dehors de l'Église, hein, on peut aussi partager ses connaissances avec d'autres. Ceux qui savent faire fonctionner la sono, des fois ils font des petites formations, j'ai vu avec ceux qui seraient prêts à donner un coup de main là-dessus. Et ça, il y a plein de besoins très concrets dans la vie de l'Église. C'est vrai que la sono, voilà, ils ne peuvent pas faire la louange et en même temps la sono, et donc c'est compliqué parfois. On aurait besoin d'avoir des personnes formées pour ça, qui soient derrière les manettes. Les pros du ménage dans l'église, ils peuvent vous montrer, hein, si vous êtes volontaire, comment on procède pour faire le ménage dans nos locaux. On peut vous faire des petites formations. Et puis il y a plein d'autres domaines dans la vie de l'église, vous voyez, on peut se former les uns les autres. Formation pratique. Et au niveau du caractère, là aussi, je crois, on a vraiment besoin les uns des autres. On peut prier les uns pour les autres. Apprendre à être à l'écoute lorsqu'un frère ou une sœur nous partage un fardeau ou un péché. Nous encourager les uns les autres dans notre marche avec Christ. Et ça peut être en se rencontrant de façon informelle, ça peut être des choses qui s'organisent en groupe de deux ou trois, c'est souvent des choses qui se font plutôt en petits groupes, ou en s'appelant au téléphone, hein, de façon, voilà, des relations parfois un peu naturelles, des choses simples. Mais en faisant cela, on est des disciples qui participent à la formation d'autres disciples. Et on le fait tous ensemble. Mais dans l'Église, il n'y a pas forcément juste un qui forme un autre. Parfois, il y en a des personnes qui ont plus d'influence dans ce domaine-là, dans nos vies. Mais on est tous impliqués quelque part et on se forme les uns les autres. Est-ce qu'on est conscient de ça? Amen. Voilà donc quelques pistes pour être une église qui entre dans l'appel du Christ ressuscité. Hein. Faites de toutes les nations des disciples. Être une école de disciples. Est-ce qu'on est prêt? Nous tous, à prendre part à la vie du CCPJ, hein, le Centre Chrétien par Jésus. Non, le Cours Chrétien par Jésus, pardon. Ouais, pardon. Est-ce qu'on est prêt à laisser encore le Seigneur nous former, nous transformer? On doit avoir cette disponibilité-là. Est-ce que nous sommes prêts également à être des disciples qui participent à la formation d'autres disciples? Et si c'est le cas, rappelons-nous que c'est là l'école de Jésus-Christ. c'est son école. C'est la première chose qu'il faut retenir. C'est son école. Ce n'est pas l'école d'un tel ou d'un tel. C'est l'école de Jésus-Christ. C'est lui le directeur, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui l'enseignant par excellence. Alors oui, il y aura aussi des périodes de tests, d'examens, des épreuves, hein, ça fait partie de la manière dont le Seigneur nous fait progresser selon la parole de Dieu. Ça ne sera pas toujours facile. Ce ne sera pas toujours de tout repos. Hein. Ça bosse dur à l'école du Christ. Hein. Mais rappelons-nous de ces derniers mots du Christ. Dernier mot qui nous laisse. Dernier mot de celui qui a payé de sa propre vie notre entrée dans son école. Et voici, dit Jésus, je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce encore pour ta parole. Ces mots que tu, Jésus, tu as prononcés maintenant il y a 2000 ans, résonnent encore en nous, parce qu'ils sont toujours d'actualité. Et Seigneur, nous te prions et te demandons que tu nous aides en tant qu'Église à devenir toujours plus une école selon ton cœur, une école de disciples qui fait des disciples. Seigneur, en premier lieu, je te prie que tu nous aides à chacun d'entre nous à accepter qu'on a encore beaucoup à apprendre de toi, que tu veux encore nous former, nous façonner. Seigneur, donne-nous d'avoir l'humilité d'un petit enfant qui, comme un enfant, Seigneur, a encore beaucoup à apprendre. Et même si nous avons beaucoup d'années déjà d'expérience avec toi, même si nous avons déjà vécu et appris beaucoup de choses, tu es un Dieu infini, sans limite, et il y a encore toujours beaucoup à apprendre avec toi. Tu veux encore façonner nos vies, façonner nos caractères, nous mettre en œuvre pour pouvoir mettre en pratique, Seigneur, ce que tu veux faire. Et Seigneur, nous avons besoin désespérément de ton Saint-Esprit pour cela, de ta présence, l'Esprit du Christ qui vit en nous. Alors te demandons encore, Seigneur, de nous aider à te laisser toute la place dans nos vies. Aide-nous à laisser la place à ton Esprit dans nos vies. Et pas seulement pour toucher nos émotions, mais aussi notre réflexion, notre intelligence, nos caractères, tous les aspects de notre vie, Seigneur. Viens encore toucher nos vies et nous transformer, nous façonner, nous former. Et on sait, Seigneur, que ce n'est pas pour nous embêter ou pour des difficultés, mais au contraire, c'est parce que à ton école, tu veux nous aider à vivre la vie pour laquelle tu nous as créés. La vie dans ta présence, une vie, Seigneur, marquée, c'est vrai, par des fois des temps difficiles. Mais une vie, Seigneur, pour toujours auprès de toi, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alors sois encore honoré, sois loué. Viens encore nous diriger, nous inspirer très concrètement, Seigneur, lorsque nous prenons ce temps, ce mois-ci, sur la vision de l'Église. Aide-nous à percevoir, Seigneur, peut-être les priorités à mettre dans ce domaine, dans l'enseignement, dans notre vie d'Église. Tu nous aides à discerner, Seigneur, aussi comment passer de l'enseignement à la pratique. Et qu'à toi revienne toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Alors, est-ce qu'il y a des élèves ce matin à l'église? Bon, alors, sort. On va faire, comment on appelle ça?